Je suis avec Patrick Héris aux Utopiales de Nantes. Bonjour.
Bonjour.
Est-ce que vous pourriez nous présenter vos nombreuses activités ?
Alors, nombreuses activités, il y a différentes casquettes. Alors donc la casquette Patrick Héris, qui est la casquette auteur et anthologiste, donc j'ai pas mal publié, tant aussi bien en polar qu'en à peu près tous les genres de l'imaginaire depuis assez longtemps. Il y a la casquette du traducteur, qui est mon métier, tout simplement, puisque j'en vis. Je traduis du Christopher Priest, j'ai traduit Robert Rankin pour Bragelonne, j'ai traduit des polars, j'ai traduit pas mal de choses. Là, surtout la série des D.J. McKell et Pendragon aux éditions du Rocher, qui sont un énorme succès maintenant quand ils sont repris en gélu. Et il y a la casquette éditeur, puisque depuis peu, outre l'anthologie que Patrick Héris avait fait chez Stevenson qui s'appelait Rockstar, on a une petite maison d'édition que j'ai fondée avec mon ami qui n'est pas là, Christophe Thiel, qui s'appelle Malpertuis. Donc évidemment, comme son nom l'indique, c'est consacré au fantastique, rien que du fantastique, toujours du fantastique, ancien et moderne, et on en est à notre 5e publication là.
Passion pour le fantastique, ça vous vient d'où ? C'est à l'adolescence tout seul ou c'est une tradition familiale transmise par la grand-mère avec les histoires ?
Certainement pas une tradition familiale, mais étant donné que, aussi loin que je puisse me rappeler, le fantastique m'a toujours intéressé, même si, ça, quand j'étais gamin, ça me fichait une trousse de tous les diables. J'ai fait des cauchemars quand même après avoir vu Voyage au centre de la Terre, qui depuis est un de mes films préférés d'ailleurs. C'est peut-être ça d'ailleurs, c'est peut-être une façon de C'est peut-être bateau ce que je vais dire, mais une façon de confronter ses peurs et en même temps d'une certaine façon de les apprivoiser. Mais je peux même pas dire d'où cela vient parce que ça a toujours été, même je peux remonter à quand je lisais Lovecraft et les textes de Wertel à 14 ans, la découverte de Masterton, qui bon, ça n'a l'air de rien, mais quand on lisait que des textes qui avaient 40 ans, quand on découvrait Masterton en 78 avec son premier roman, ça faisait un choc. Masterton, qui est peut-être d'ailleurs pourquoi je suis traducteur, puisque un coup en Angleterre, je me suis acheté ces inédits qui n'étaient pas encore traduits chez Neo, et c'est la première fois que je lisais un bouquin entier en anglais, sans d'ailleurs dictionnaire sous la main parce que j'en avais pas. Voilà, donc c'est une réponse qui n'en est pas une parce que aussi longtemps que je me rappelle, j'ai toujours été intéressé par le fantastique. Donc je pense que c'est génétique ou c'était la graine qui a été implantée, des méchantes sorcières qui se sont penchées sur mon berceau.
Qu'est-ce qui vous intéresse le plus dans le fantastique ? C'est le côté, on va dire, les vampires ou c'est plus le fantôme ou la sorcière ou...
Disons, le fantastique, c'est quand même avant tout une métaphore. Donc tout est une métaphore. Bon, on peut prendre les monstres traditionnels qui remontent à la plus ancienne des traditions orales et qui sont aussi vieux que l'humanité elle-même. Mais le fantastique, c'est une métaphore de tout ce qui nous fait peur. C'est une métaphore de la mort, c'est une métaphore de l'altérité, le fameux thème de l'autre, etc. Par exemple, je suis d'ailleurs de Lovecraft qui montre quelqu'un qui découvre sa propre apparence monstrueuse. D'un côté, c'est quand même, je trouve ça quand même plus effrayant que des vampires en chemise à jabot. Donc c'est vrai que c'est cette espèce de côté plongé dans l'inconscient, j'en reviens au terme parce que j'en trouve pas mieux, de métaphore. J'avoue que c'est ce qui m'intéresse le plus. Par exemple, dans l'Anto Malpertuis qu'on va faire, il y a un texte absolument fabuleux de Brice Tarvel qui a une description d'une obsession paranoïaque qui est vraiment minutieuse, avec une chute magnifique que je défoilerai pas. C'est aussi ce genre de choses qui existent. C'est vrai que il y a aussi tout un pan du fantastique où la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que les manifestations surnaturelles existent réellement ou est-ce que tout est de la tête du protagoniste ? Évidemment, les meilleurs vous laissent poser encore la question.
Beaucoup de nouvelles en fantastique, c'est un format qui convient particulièrement au style ?
Personnellement, je trouve que le fantastique, c'est un genre de nouvelle. Autant le polar, la science-fiction, par exemple, est plutôt un genre de roman. La science-fction peut se prêter aux deux. La fantasy, c'est plutôt roman, ou alors elle touche vers le fantastique, puisque somme toute, c'est de l'aventure fantastique. Mais si on cherche le nombre de véritables chefs-d'œuvre du fantastique, des nouvelles, entre celles de Robert Bloch, celles de Jean Rey, celles de Michel Pagel, qui avait des excellentes nouvelles fantastiques, etc. Si on compare aux noms, on pourrait en obtenir une quantité. Quand même, quand ils avaient fait un omnibus des meilleures nouvelles, et encore uniquement anglo-saxonnes, je crois qu'ils étaient tombés, d'accord, sur 200 nouvelles. Tandis que si on choisit les romans, évidemment le choix sera plus difficile. On peut dire Malpertuis, Jean Rey, il y en a qui diront Stephen King, on peut dire Maison Hantée de Shirley Jackson, qui a donné d'ailleurs un film qui est aussi un des chefs-d'œuvre du cinéma fantastique. Mais oui, je trouve que c'est un genre qui se prête plus à la nouvelle, curieusement. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y ait pas encore une fois de bons romans, mais déjà en plus les romans ne sont pas si nombreux. Mais si on doit dénombrer les véritables chefs-d'œuvre du genre, je trouve qu'on trouve plus souvent de nouvelles. Lovecraft a fait principalement des nouvelles. Clark Ashton Smith, si je me rappelle bien, n'a pas fait de romans. Jean Rey a fait un roman, ou deux, je ne sais plus, et fait parle par eux-mêmes.
Vous avez sorti plus exactement une anthologie sur Lovecraft. Il y a encore des choses à publier ?
Il faut croire, puisque c'est un sujet qui est quand même assez vaste, et quand on a tendance à penser que tout a été fait, on trouve encore une nouvelle variation. Et les 22 auteurs, dont certains d'ailleurs très jeunes, comme quoi, qui étaient dans cette anto, tous ont trouvé quelque chose à dire là-dessus. Je pense que, évidemment, Christophe, puisque c'est lui qui a dirigé l'anthologie, en parlerait mieux que moi. C'est d'ailleurs une anthologie qui s'est fait étonnamment vite. Je crois que l'essentiel des textes était bouclé en 9 mois, ce qui pour une jeune maison d'édition est quand même assez surprenant. Ce qui est signe qu'il y a encore des envies de parler de Lovecraft. Et tant qu'il y aura des gens qui auront envie d'en parler, et tant qu'il y aura des gens qui auront envie d'en lire, tout ira pour le mieux.
Vous pouvez nous raconter le début de l'histoire de la dernière sortie de votre maison d'édition?
Le dernier ouvrage qu'on a sorti, c'est Les Contes du Vagabond de Claude Mamier. C'est moi qui m'en suis occupé, puisque comme dit Chris, lui s'occupe uniquement des auteurs morts et moi des auteurs vivants. C'est tout simplement un des textes pour lesquels Malpertuis doit exister. C'est en fait Claude Mamier, je vous le raconterai mieux que moi, mais il a fait une entreprise qui était ce qu'il appelait les mille et une nuits, c'est-à-dire de faire un voyage autour du monde en mille et une nuits et jours pour rassembler des contes du monde entier et faire des spectacles de contes. Déjà une magnifique entreprise, on peut le trouver sur le site Mille et une nuits, où il y a encore, je crois, ses photos, ses comptes rendus, etc. Et dans Les Contes du Vagabond, c'est une série d'histoires où évidemment il y a une inspiration des contes, mais qui se passe dans différents endroits. Et c'est un fantastique comme on l'aime, allégorique, poétique, métaphorique, encore une fois, en même temps avec une histoire très pulp, très jouissive, qui se passe au Père Lachaise d'ailleurs, mais qui se passe en quatre coins du monde. Il y en a une qui se passe en Roumanie, il y en a une très poétique qui se passe en Thaïlande, etc. Et c'est vraiment, en plus, avec la nouvelle notion d'exotisme, parce qu'on s'aperçoit que plus on nous dit que le monde se rétrécit, plus on a l'impression que les esprits se rétrécissent en même temps, et plus on a peur du voisin de plus en plus rapproché d'ailleurs. C'est peut-être temps d'avoir à nouveau un petit peu d'exotisme. En plus, il y a une tradition, et ça c'est un des vieux chevaux de bataille, qui se perd, c'est celle de l'écrivain voyageur. Or que ces temps-ci, j'ai l'impression que les gens qui voyagent n'ont pas forcément l'idée d'écrire. Il y a des cas comme Émilie de Tombe qui a écrit sur sa vie au Japon, mais je trouve que c'est... Encore une fois, alors au fur et à mesure que le monde s'agrandit, on a l'impression que le champ des possibles se rétrécit. Et ça, c'est vraiment un petit peu dommage. Soit dit en passant, je pourrais le faire moi aussi, mais malheureusement, je ne voyage pas autant que je le voudrais. Même si, j'ai quand même situé un de mes bouquins à Amsterdam, apparemment, pour cette ville.
Vous avez aussi une passion pour la musique, qui cadre particulièrement bien avec la nouvelle?
Oui, tout à fait. Une nouvelle, c'est un petit peu comme certaines que j'ai écrites d'ailleurs qui se situent en temps réel. C'est-à-dire, il y a une de celles que j'ai fait dans Procréation. En fait, on pourrait presque y mettre une durée, puisque la narration et ensuite les flashbacks qui expliquent pourquoi le personnage en vient là sont censés se dérouler dans la nouvelle, dans mon idée, en temps réel. C'est-à-dire le temps qu'on met à la lire et le temps que met le personnage à la raconter. Et en effet, c'est un format musical. Moi, c'est une influence immense. J'écris en musique. Il y a des textes qui ont certainement été influencés directement. J'ai écrit un bouquin de la série Le Pou. La bande originale de ce bouquin, ça serait The Cure, période pornographie. Il y a quelques petits clins d'œil directs dedans, mais alors que seuls les curistes les plus pointus verront. Fils de la haine, je dirais la bande originale, c'est Pretty Hate Machine de Nine Inch Nails. Ou alors ceux que je cite, comme Osico, quelque chose comme ça. C'est vrai que ça peut inspirer, je reviens à Rockstar que j'ai fait, évidemment dans le thème est évident, la nouvelle que j'avais fait, d'ailleurs que j'avais fait pour une autre anto à l'origine, puisque c'est pas autopublication, n'est pas quelque chose de précis, mais Brian Hodge, qui est un auteur de génie un peu trop méconnu, avait fait une nouvelle sur un groupe industriel à la Skinny Puppy, et je l'ai traduite, j'en ai bavé des ronds de chapeau, parce que dans lisant son texte, on entendait quasiment la musique derrière, comme avec certains romans de Jean-Marc Ligny, qui est un vieux pote, où on a quasiment l'impression d'entendre la musique... sur l'Urlungur, on a l'impression d'entendre des Sisters of Mercy derrière. Mais c'est une influence directe, une influence, je dirais, presque aussi esthétique, par les mots peuvent inspirer la musique. En plus, c'est vrai que c'est quelque chose qui est très transitif, parce que quand on regarde, on voit que souvent des musiciens se sont inspirés de littérature ou de cinéma, ne le cache pas, au fait que cela revienne d'une autre façon. C'est assez intéressant, d'ailleurs, dans Rockstar, mon premier projet, c'est d'essayer d'amener des musiciens. Il y en avait avec qui j'étais en contact, ça a trop duré, je n'ai pas pu la voir, mais c'était prendre des musiciens dont certains auraient écrit leur première nouvelle. Donc de faire un peu une sorte de mélange comme ça. Mais c'est une inspiration qui, c'est logique, il faut remettre ça d'une certaine façon. Avec mes exergues, hésitations de mes groupes, de préférence quand ça colle et quand je les écoutais en écrivant les romans ou les textes. Puis évidemment, c'est toujours pareil, quand je les leur donne, ça leur fait toujours extrêmement plaisir. Je l'ai fait plusieurs fois. J'ai juste buté sur Kuntal, qui est un de mes groupes préférés, puisque l'ennui, c'est qu'eux n'écrivent pas leurs propres textes, puis ils se traînent des thèmes anciens. Mon prochain roman leur sera juste dédié pour tout ce qu'ils m'ont rapporté avec leur musique. Il faut écouter Kuntal, c'est sublime.
Votre impression sur les Utopiales?
Bah plutôt sympa, c'est toujours pareil. Moi cette fois-ci j'ai pas de dédicace parce que j'ai pas de nouveautés. Je suis plutôt venu en tant que Malpertu pour présenter. Bon, donc j'ai pas grand chose à faire, même si de temps en temps il y a quelqu'un qui me colle un micro sous le nez en me disant de raconter des bêtises. Mais c'est toujours agréable, on voit des potes, on voit quelques nouvelles têtes aussi, ce qui est là Norbert Merjanian qui est un petit peu un nouveau dans le milieu entre guillemets, donc qui est bien sympa, donc ça fait plaisir de voir aussi de nouvelles gens. Puis bon, j'ai vu des gens que je ne connaissais pas mais qui sont dans mon que j'ai accepté pour la future anthologie Malpertu. Donc c'est aussi agréable de mettre un visage. Puis bon, des fois, il y a des idées qui naissent, quoi. Je vais probablement faire un roman pour une collection jeunesse. En fait, l'idée est née dans une discussion avec l'éditeur à Épinal. Donc c'est aussi, ça peut aussi être des choses créatives. Pas tellement cette année, mais il y a des fois, il faut dire qu'aux Utopiales, c'était le premier festival, moi je l'ai fait dès le tout début, ouvert sur l'Europe. Alors c'était assez amusant parce que, et ça... Il faudra jamais assez souligner le travail extraordinaire qu'a fait Bruno Della Chiesa, qui est la personne qui a porté à bout de bras le projet Utopial, qui s'est battu contre vent et marée pour imposer un festival de science-fiction. Et ça, Bruno, si un jour, si tu écoutes ceci, sache que tout le monde sait à quel point on doit être reconnaissant. Et donc la première année, il y avait des Allemands, il y avait des gens qui venaient du Danemark, il y avait un éditeur italien, et c'était très Dr. Livingstone, je présume. C'était, ah tiens, ils existent, ils mordent pas, ils écrivent des choses, mais à peu près comme on fait. Et la seconde année, ça a commencé à être professionnel. C'est-à-dire, il a commencé à y avoir des contacts. Jean-Marc Ligny a été publié en Italie et bientôt en Allemagne par des contacts qu'il a pris, en tout cas pour l'Italie, c'était aux Utopiales. Il me semble que si Valerio Evangelisti a été publié en France, le premier contact aux Utopiales, Wolfgang Jenske aussi. Donc c'est non seulement une occasion de voir des gens, de signer des bouquins, c'est aussi de certaines façons un rendez-vous de travail. C'est vrai que l'aspect venu de toute l'Europe est un petit peu passé à l'as, c'est quand même assez dommage, mais enfin ça reviendra peut-être plus tard. Autre chose que je précisais, Henri Lovenbruck par exemple, ça c'est une anecdote marrante, mais ça m'oira, il a été publié en Russie. Les Tovalich, il a été chez le même éditeur de Nosdrovor, la série de Sergei Loubienko qui a été adaptée en film. Et on a oublié de leur envoyer quelques déclinologues en Russie, leur expliquer qu'en français était capable de faire de la fantasy, parce que le temps qu'on leur explique, il en avait vendu 2 millions. C'est les ex-pays de l'Est, ils lisent.
Oui, impressionnant.
Je sais plus qui m'avait raconté qu'il allait voir une nouvelle publiée dans une revue russe, et il demandait au gars le tirage, et il lui a dit, nous on n'est pas énorme, vous savez, on plafonne à 200 000. Ouvrons-nous sur le monde. Jean-Marc Ligny, d'ailleurs, puisque je le cite, qui va être publié en Chine. L'international de l'imaginaire est en marche, comrade.
Pour retrouver toutes ces informations, vous avez un ou plusieurs sites internet dont vous pouvez nous donner les adresses?
C'est juste, on discute avec les potes. Moi, j'aime bien savoir que les autres... c'est toujours agréable de savoir qu'un collègue va être traduit ou qui s'étend, etc. C'est un petit peu raconter les histoires. Moi, j'ai pas de site personnel parce que je vois pas très bien ce que je pourrais raconter d'intéressant. Et ça, c'est plutôt des petites anecdotes qu'on se raconte entre nous, quoi. Sans bien sûr les ragots, parce que moi, les ragots, ça m'indiffère profondément. Mais ça, j'aime bien savoir des choses comme ça. La preuve, je préfère dire du mal du bien des potes, c'est dire.
Votre maison d'édition a un site internet, par contre, Malpertu?
Oui, bien sûr, c'est www.editionmalpertu.com. Oui, et là, on peut se tenir au courant toutes les nouveautés, puisqu'on a déjà au moins 4 sorties, voire 5 en prévision pour l'année prochaine.
Quelque chose que vous aimeriez rajouter?
Je sais pas, achetez nos bouquins, ça vous fera continuer. Lisons. Lisons, parce que dans le monde où on est actuellement, j'ai l'impression que prendre des bouquins au lieu d'aller décérébrer devant la télévision, ça va bientôt devenir un acte subversif. Donc non seulement en achetant des bouquins, on se décérébre pas, mais en plus, on va devenir l'épingle de ce bas monde. Les derniers rebelles. Ceux qui utilisent encore leur cerveau pour autre chose qu'en vendre une partie à TF1.
Vous avez oublié de nous parler du fait que vous aviez aussi écrit une chanson pour le donjon de Nalbach.
Oui, c'est plutôt entre guillemets histoire d'amitié, puisque John est un vieux pote de bien avant qu'ils se connussent, les autres aussi. D'ailleurs, ça m'a fait tout bizarre, je me rendais pas du tout compte, puisque j'étais a priori pas dans le milieu rôliste, de voir à quel point John a été connu. Ça m'a fait assez bizarre, parce que c'est mon pote John, quoi. Et soyons patients, et quand on le connaît, on sait qu'il a pas du tout changé depuis qu'il a un énorme succès. C'est toujours le même type adorable. Oui, j'oubliais aussi un petit détail des choses que je voudrais dire, c'est que alors qu'on arrête de nous dire et nous rebattre les oreilles, je crois que c'est un peu la prophétie autoréalisatrice que les jeunes ne lisent pas. C'est faux. Maintenant, les jeunes ont le droit d'avoir ce qu'ils ont tout simplement envie de lire. Bon, les sorts de Bragelonne, qui n'est pas un éditeur jeunesse, mais moi-même, je traduis une série jeunesse, les Bobby Pendragon, qui ont des tirages énormes. Enfin, je sais pas en poche, je crois qu'ils en étaient à 40 000, mais ils sont à 10 000 pour un public, au moins 10 000 en grand format, pour un public principalement ado, le public d'Harry Potter. Faut peut-être arrêter, parce que moi, je reçois des textes souvent d'auteurs de 20 à 22 ans, souvent de très très grande qualité. D'ailleurs, je suis très content, parce que pour l'Entre Malpertuis, il y aura plusieurs de premier ou deuxième texte de petits jeunes. Bon, bah, si nous, on fait pas ce genre de travail-là, je suis pas sûr de qui le fera. Et alors qu'on arrête de nous bassiner les oreilles à dire que les jeunes le lisent pas, ne veulent pas le lire, ou plutôt de leur laver le cerveau en leur disant qu'il faut pas qu'ils lisent et qu'il faut qu'ils aillent de se décérébrer devant TF1 comme des cons, comme des veaux, parce que c'est faux. Il y a toujours autant de lecteurs et il y aura, quoi qu'on dise, même si ça déplaît, il y aura toujours des bouquins, il y aura toujours des gens qui auront envie d'écrire, de voir des finitions, qui auront envie d'en lire. On espère qu'il y aura toujours des gens pour en éditer, même si c'est sur un tout petit format comme Lulu. Et comme je dis, ben, bientôt, refuser de se laisser décérébrer, moi je continue à penser que ça va être la dernière des subversions possibles.
Merci.
Merci à vous.